Direct en jeu, la radio insolite, c'est reparti pour une découverte un peu insolite, originale. Et alors, vous savez que d'habitude, je suis un peu tranquille. Mais là, waouh, j'en ai pas qu'un, j'en ai deux, parce qu'il y a Karine qui est là. Bonjour Karine. Oh, salut Lionel,
bonjour.
Au fait. Hein. Enfin bon, bonjour Karine quand même.
Bonjour. C'est...
Alors, où est-on et que fait-on?
Eh bien, donc, on est à Gruffy.
À Gruffy,
un petit village. Oui. Un petit village de Haute-Savoie qui est au pied du... au pied du Semnoz et du parc régional du Massif des Vosges.
Ouais, par rapport à Paris ou par rapport à Marseille, c'est loin?
Alors, Marseille, 4 heures et quelques, et Paris, je ne sais pas.
Je crois que c'est à côté d'Annecy, c'est bien ça, non?
C'est ça, c'est à côté, entre Annecy et Aix-les-Bains.
C'est un petit village de combien d'habitants?
1500 habitants à peu près.
Ah, mais vous avez donc l'eau chaude, l'électricité, vous avez la télé en couleur, vous avez tout ce qu'il faut.
On a tout ce qu'il faut. Nous, c'est un peu juste chez nous parce qu'on est sur la hauteur du village, mais ça va, on arrive à voir ce qu'il faut, on a négocié.
Alors, par contre, on est en pleine nature, là, on est bien d'accord?
C'est ça, justement. Sur les hauteurs du village et autour de nous, il y a rien à moins de... Il n'y a aucun être vivant à moins de 500 mètres, à part des vaches, des cerfs et des biches. Effectivement, on est au bord de la forêt.
Mais puis je te rappelle qu'il y a aussi Karine à côté de toi, quand même, hein. Faut pas l'oublier.
Comment?
Il y a Karine à côté de toi aussi, hein?
Il y a Karine, c'est vrai, il y a Karine. Karine et mes enfants, les deux filles.
Quelle est ton activité, Lionel? Ou plutôt, quelle est votre activité à vous deux?
Oui, eh bien, là, donc, on a créé une association pour faire découvrir aux gens tout ce qu'on savait faire à l'aide des plantes sauvages. Alors, essentiellement, plantes sauvages comestibles, d'ailleurs. Donc voilà, on a créé cette association l'an dernier, elle démarre cette année.
Dans un contexte un peu spécial, si je puis me permettre.
Oui, oui, dans un contexte un petit peu spécial. Et voilà, donc bon, moi je me suis formé pendant près de 3 ans auprès de François Couplan. François Couplan, c'est un ethnobotaniste botaniste de renom, donc du coup j'ai voulu suivre sa formation à lui parce que il savait faire beaucoup de choses et puis il connaît bien les plantes. Maintenant que j'ai terminé cette formation, je voulais moi à mon tour transmettre aux gens ce que j'avais pu apprendre.
Et excuse-moi Lionel, c'est un ethnobotaniste? Pardon, j'ai pas...
Un ethnobotaniste, c'est une personne...
E-T-H-N-O?
C'est ça, c'est une personne qui étudie les plantes en relation avec les êtres humains. Avec les hommes. Donc, plantes médicinales, plantes comestibles, par exemple. Ou alors, ça peut être de la vannerie, ça peut être plein de choses, finalement. Puisque, voilà, ça étudie les plantes qui servent à l'homme.
D'accord.
Et donc, voilà, moi, je me suis formé là-dessus, parce que j'aimais ça depuis très longtemps. D'abord, c'était un hobby, puis je me suis dit, tiens, peut-être que j'aimerais bien que ça devienne plus qu'un hobby. Et voilà. Et du coup, une fois que j'ai terminé cette formation, j'ai voulu enseigner tout ce que j'avais appris, parce que je trouve génial de pouvoir se servir de tout ce que la nature nous propose, que ce soit justement pour se nourrir déjà, parce que je suis assez gourmand, donc j'aime bien découvrir de nouvelles choses et cuisiner et découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts. Et en plus de ça, bon, il se trouve que si quand on a une bonne nourriture, on peut bien se soigner également. Il y a des plantes médicinales, il y a des plantes avec lesquelles on peut faire de la musique. Il y a des plantes avec lesquelles on peut faire de la vannerie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut trouver, qui sont à disposition tout autour de nous.
Alors, je vais en profiter, puisque tu viens de me tendre une perche, pour faire un petit clin d'œil à Renaud Ruhlmann de Nature Assemble, qui, je vous rappelle, au mois d'août, organise le festival de musique des plantes. Et ça, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Ça fait longtemps que ça existe, ce type de choses, le fait d'avoir ces plantes qui sont en même temps, j'allais dire, comestibles, mangeables, mais un peu sauvages, ou c'est quelque chose,
oui,
qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps?
Ben non, justement, ça existe depuis super longtemps. Il faut dire qu'au départ, nous étions des peuples de chasseurs-cueilleurs. Alors chasseurs, certes...
Je n'étais pas encore né à cette époque-là, tu m'excuses.
Ouais, non, c'est ça. Donc, ça existe depuis toujours. L'agriculture est très récente par rapport à l'évolution de l'homme. Donc c'est vrai que pendant des siècles, et voire même plus longtemps que ça, on a mangé des plantes sauvages. On a fait de la musique avec des plantes sauvages. On s'est soigné avec des plantes sauvages. Et maintenant qu'on a perdu tout ça depuis, on va dire, peut-être deux ou trois générations, ou oui, peut-être depuis 1900, ça se perd doucement, mais sûrement, avec toute la révolution industrielle qu'on a eue, avec la productivité à tout va, je veux dire, on s'est mis à faire des légumes qui poussaient vite, bien, mais de notre côté, on a perdu tout notre savoir sur les plantes sauvages, qui étaient souvent d'ailleurs bien plus riches que toutes les plantes qu'on peut manger tous les jours.
Est-ce que c'est une notion de perte de goût ou est-ce que c'est une notion de cette mondialisation qui a fait qu'on peut avoir des tomates qui nous viennent de la Lune, de la planète Mars? J'exagère un tout petit peu, mais est-ce que c'est une perte de goût qu'on a eue et qui est en train de revenir?
Non, je pense pas. Enfin, oui, la perte de goût est liée, certes, ouais. Mais on cultive de cette manière-là maintenant. Enfin, les hommes cultivent de cette manière-là. C'est juste pour avoir une forte productivité. Et puis après, bon, oui. Et puis on va rentrer dans les histoires des lobbies et tout ce que vous voulez. Mais bon, d'accord. On va peut-être pas aller là-dedans. Mmh. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on a perdu des saveurs puisqu'on a sélectionné toutes ces plantes. Mmh. Et d'autant plus quand on mange des tomates en hiver, je veux dire, elles sont pas très très bonnes. Hein. Même si on avait de bonnes tomates au départ, si elles prennent pas le soleil, c'est pas top. Donc bon, c'est vrai qu'une plante sauvage, elle pousse quand elle doit pousser. Je veux dire, il n'y a rien qui se cultive en dehors de la saison où elle est génétiquement programmée pour sortir. Mmh. Du coup, elle a toujours ses valeurs culinaires et puis ses vitamines et puis toutes les bonnes choses qu'on peut trouver dedans. Tout est toujours au top. Quoi.
Les plantes sauvages, on les trouve en particulier autour de toi, c'est-à-dire en Haute-Savoie, on peut les trouver un peu partout.
Alors, on en trouve partout.
D'accord, ça c'est clair.
Je dirais que, voilà, là c'est clair. Après, il y a quelques endroits qui sont un peu plus propices où on peut en trouver plus. Mais il y en a toujours partout. Moi, justement, dans cette formation que j'ai fait avec François Couplan, on a fait un petit peu, j'ai envie de dire, le tour de France. On est allé en Corse et à chaque fois, on mange des plantes sauvages à tout va. En Corse, en Bretagne, dans les Hautes-Alpes suisses. Dans les Alpes suisses, je veux dire, dans les Alpes d'Haute-Provence. Hein, enfin, dans tous les milieux, de toute manière, partout. J'ai des amis qui sont à Paris et qui mangent des plantes sauvages très régulièrement.
Il y a des plantes sauvages à Paris. Tu es en train de me dire qu'il y a des plantes sauvages à Paris.
Ah oui, et il y en a des bonnes. Hein. Moi, j'ai une amie qui habite là-bas et qui anime des stages. D'accord. À Paris même. Hein. À Paris, donc bon, il y a de quoi faire, ça impressionne un peu, mais il y en a partout.
D'accord. Il y a combien de classifications? Enfin, je sais pas, il y a une classification. Comment est-ce qu'on fait pour différencier toutes ces plantes?
Ah bien, là, il faut les apprendre.
Oula. En fait, les plantes... Il y en a combien, alors? Vas-y, réponds la question.
Alors, voilà. Donc, les plantes, si je ne me trompe pas, dans la flore française, il y a environ 7000 plantes.
Seulement?
Oui, dans la flore française. Européenne, on monterait à 12 000 seulement. Environ. C'est sûr que là, oui, non, mais seulement.
Une honte du mot. Non, c'est pas ce que tu as dit, il faut toutes les apprendre. Alors, c'est pour ça que je dis seulement.
Donc, voilà, bon, il y a pas mal de plantes. Et il y en a environ 1400 de comestibles. Ça reste énorme par rapport à la trentaine de légumes, peut-être, si on comprend.
D'accord.
Si on comprend les fruits exotiques et les légumes exotiques, tant on monte à 60 légumes comestibles qu'on mange. Et là, dans les plantes sauvages, on a 1400 plantes comestibles.
D'accord.
Avec lesquelles on pourrait se nourrir. Et bien, maintenant, il faut les apprendre. Voilà, si on veut pouvoir se nourrir avec. Alors, il y a des astuces. Après, il y a des familles où les plantes sont quasiment toutes comestibles. Il y a très peu de problèmes. Donc, si déjà on apprend les familles, on sait que... Si on tombe sur une plante de cette famille-là, comme les lamiacées, par exemple, il y en a très peu qui sont toxiques. Donc, si on est capable de reconnaître la famille des lamiacées, eh bien, on pourra se nourrir avec des plantes de cette famille-là.
D'accord. Je vais le faire un peu basique. Donc, il y a des plantes sucrées, il y a des plantes salées, il y a des plantes amères. Non, c'est pas comme ça qu'on dit.
Alors, c'est presque ça. Bon. Des plantes sucrées, il y en a peu dans l'ensemble. Par contre, acide, oui, il y en a. Amer, il y en a. Des plantes qui ont le goût de champignons, il y en a. Des plantes qui ont le goût de noix de coco, il y en a. Bon, voilà. Après, c'est sûr que la plante qui a le goût de noix de coco, il faut un petit peu. C'est pas un premier goût. On croque pas dans une noix de coco. Mais en arrière-goût, quand on croque dans cette plante qui s'appelle d'ailleurs la berce, c'est la berce spondyle. Quand on croque la tige, je vous assure qu'on a des saveurs de noix de coco dedans. Des saveurs d'agrumes également. Donc, C'est génial, quoi. C'est génial.
D'accord. On est d'accord que ces plantes, on les met en complément d'une préparation alimentaire ou on les mange comme ça en brut?
Ah non, non, on les mange. Moi, les plantes, justement, qui me plaisent et que les plantes que je veux faire connaître à un maximum de personnes, ce sont des plantes avec lesquelles on cuisine, ce sont des légumes.
D'accord.
C'est-à-dire, on peut cuisiner à 100% avec ces plantes. Bien sûr, c'est vrai que quand je fais une tarte à la berce, pour rester sur la berce, je vais mettre de l'oignon dedans, je vais mettre de la farine, je vais mettre un peu de crème fraîche ou peut-être de la crème de coco d'ailleurs, parce que ça se marie bien avec. On va mettre un peu de citron, on va utiliser les légumes et les fruits qui nous entourent, mais on va faire le légume principal sera la berce. Donc on peut vraiment cuisiner avec ces légumes-là. Ce sont des légumes sauvages.
Ta mère de faire découvrir, alors si je me rappelle bien, il y a trois niveaux. Il y a un premier niveau où je viens passer une demi-journée, un deuxième niveau où je passe une journée entière, et un troisième
Oui.
niveau où carrément je fais un bivouac. Et c'est comme
Oui.
ça, c'est un peu comme ça que tu fais découvrir toute cette
C'est
activité?
ça. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est vrai que le premier niveau, donc la demi-journée, ça fait, on part sur 2, 3 heures, environ 2 heures de balade et 1 heure de discussion, quoi. Donc là, on va parler des plantes, on va se promener autour de chez nous, essentiellement, ça se fait autour de la maison. Voilà, dès qu'on croise une plante, on va parler de cette plante, si elle est comestible, si elle est médicinale, on va la goûter, si elle peut se goûter crue, hein, puisqu'il y a beaucoup de plantes qui peuvent se manger crue, hein. Donc on va pouvoir la goûter, on va la toucher, on va la sentir. Voilà, mais là, ça va être de la théorie, on va dire. Pour la matinée. Après, quand le stage dure une journée, eh bien là, on va commencer à cueillir les plantes. On va avoir la même démarche au départ, hein. Au départ, on arrive, on touche la plante, on la sent, on la goûte crue. Et puis, quand il y a des stations suffisamment grandes, on va cueillir des plantes pour pouvoir revenir à la maison et les cuisiner. Et là, à ce moment-là, on va préparer un repas, entrée, plat, dessert. Et le soir, là, en fin de journée, quand on a fini de cuisiner tout ça, on mange tous ensemble et les gens après rentrent chez eux, le sourire aux lèvres.
Et le bivouac.
Et, ah oui, et après il y a le bivouac, c'est vrai, il y a le bivouac, donc là c'est une autre démarche. Là, ce serait plus un bivouac dont c'est pour apprendre aux gens à se débrouiller seuls en pleine nature. Donc, effectivement, je leur demande un minimum de matériel de randonnée, hein, pour pouvoir passer un week-end dans les bois. Là, on va leur apprendre à faire un feu, à alimenter un feu. Alors, le feu, on ne le fait pas n'importe où, hein. Le feu, on le fait sur des places à feu, avec des autorisations, parce que là, maintenant, tout est contrôlé, tout est interdit déjà. Et là où on peut le faire, c'est contrôlé. Donc, on évite de faire des bêtises. Mais voilà, disons, l'objectif, c'est de trouver un endroit pour pouvoir faire ça en sécurité et avec toutes les autorisations en bonne et due forme. Donc là, on va apprendre à faire un feu, si possible sans briquet et sans allumettes. Hein, on va apprendre à trouver de l'eau, à trouver des plantes sauvages, à installer un camp en sécurité parce qu'on ne monte pas un camp n'importe où. On va éviter de faire un camp dans un fond de vallée. On va éviter de faire un camp en hauteur. Voilà, il y a des endroits où on évite de se mettre pour ne pas avoir froid, ne pas avoir chaud. Il faut trouver un bon endroit. On va apprendre les premiers gestes de sécurité. Voilà, enfin, plein de choses. S'orienter aussi si on a le temps. Après, ça dépend des groupes. Si le groupe avance bien, ben on va voir beaucoup de choses. Si le groupe avance un peu moins bien, on va voir l'essentiel. On commence déjà par l'essentiel et après on va donner un peu plus de détails.
Ouais, c'est un vrai retour à la nature, ça c'est important, je crois.
Oui. Et c'est génial quand on arrive à le faire. Après, on arrive à partir en randonnée juste avec une bâche au lieu de prendre une grosse tente qui pèse des kilos.
Hein?
On part en randonnée avec peu de nourriture parce qu'on sait qu'on va pouvoir en trouver le long de notre balade. Enfin, c'est chouette, quoi. C'est chouette.
Ouais. Alors, juste un truc, moi souvent je m'interroge aussi bien par rapport à nos cinq sens, puisque là on parle souvent des cinq sens avec toi, mais je m'interroge pour savoir, je n'ai pas eu d'éducation du palais. Est-ce que je réussis à différencier ces goûts? Ça c'est important.
Oui, mais je pense qu'on y arrivera toujours. Je veux dire, sans éducation du palais, c'est pareil. Moi, j'ai pas fait d'école, hein. J'ai pas fait d'école de cuisine, j'ai rien fait de tout ça. Mais on est obligé d'être, comment dirais-je, touché, en tout cas, par tous ces nouveaux goûts qu'on va sentir, même si au départ, on n'arrive pas à les traduire, à mettre des mots dessus. Quoi qu'il en soit, on va goûter une plante qui aura le goût de rien d'autre. Enfin, de rien, d'aucune plante dont on a l'habitude de manger, en tout cas, ça c'est sûr.
D'accord, ok. D'accord. Bon, et Karine là-dedans, parce que bon, pour le moment on t'entend, mais qu'est-ce
Ah
qu'elle
oui,
fait,
et Karine,
elle? Qu'est-ce qu'elle fait,
justement.
elle?
Alors moi déjà, je connaissais pas du tout les plantes sauvages, donc c'est Lionel qui m'initie, et c'est vrai que pour revenir sur l'histoire de goût, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on découvre des nouveaux goûts sans cesse. Et ça, c'est toujours un émerveillement de goûter une nouvelle plante, d'essayer d'analyser son goût. Et puis, y en a qu'on va trouver délicieuse tout de suite. Il y en a qu'on va goûter, qu'on va trouver un peu amère au départ. Et puis, finalement, la deuxième bouchée, ben, ça sera moins amère. Et puis, on va plus l'apprécier. On essaye de les faire goûter aussi à nos enfants. Alors, c'est très marrant de voir les réactions différentes, parce que y en a une qui va adorer une plante et l'autre va la détester, et inversement.
La
Donc,
notion de
c'est
goût.
vraiment, la notion de goût est vraiment hyper importante, et c'est très personnel aussi. Et selon les âges, ça va, voilà, on va plus apprécier une plante ou une autre plante aussi, selon les enfants ou les adultes. Ça va pas être forcément les mêmes plantes, les plantes préférées de chacun.
D'accord. Pour être un peu basique, est-ce qu'il y a le plat incontournable et la plante incontournable? Je
Alors
pense,
le
par exemple, je pense
alors
au
le plat,
chocolat
par
ou des
exemple.
choses comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment le truc que tout le monde apprécie?
Alors ben moi je dirais que oui, la berce par exemple, c'est vraiment une plante que tout le monde apprécie. Peut-être un peu moins certains enfants. Alors, une de nos deux filles adore et l'autre déteste. Par contre, alors, on s'amuse aussi à faire des recettes différentes avec une même plante. L'ortie, par exemple. L'ortie, c'est une plante qu'on trouve partout. Et ça, c'est une plante que, alors, les enfants adorent en tartine salée, passée au grill du four avec un peu de fromage dessus. Ça, c'est par exemple quelque chose que voilà, tout le monde adore cette recette-là. La tartine d'ortie grillée avec son petit fromage sur son pain un peu aillé, c'est un incontournable aussi, ça.
Est-ce que vous intervenez dans les classes scolaires au niveau de l'éducation nationale pour apprendre? Parce que je me rappelle quand on était petit, on avait des cours de sciences naturelles. Mais là, on est vraiment, j'allais dire, on tape dans le dur. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain et puis on découvre, comme tu dis, des nouveaux goûts.
Alors là, en fait, on a fait justement, on organise des petites formations pour les enfants. Pour les enfants du secteur de Gruffy, donc les petits villages aux alentours. Mais chez nous, on n'intervient pas encore dans les écoles. On aimerait pouvoir intervenir, mais pour ça, il faut avoir une agrémentation qu'on va essayer d'avoir dans le courant d'année. Là, pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une petite école. Donc, on va faire une école. Où on va apprendre à parler l'anglais. Parce que Karine est enseignante en anglais, elle est prof d'anglais de métier.
D'accord.
Et justement, elle rêve depuis des années d'enseigner aux enfants, mais d'une autre manière
Que dans une salle de classe.
voilà, que dans une salle de classe.
Oui,
Donc
parce que.
l'objectif serait d'être en extérieur au maximum et d'apprendre l'anglais avec ce que la nature nous propose. Et moi, de l'autre côté, je vais faire. Une école des bois, on appelait comme ça un petit peu. C'est un petit peu une école, c'est un peu ce qu'on pouvait faire chez les scouts finalement, avec les petits, sauf que bon, voilà, on va juste rester dans les bois et on va apprendre la même chose, toujours pareil, faire un camp, reconnaître des plantes sauvages, allumer un feu, avec quoi on allume un feu, les plantes qui sont utiles pour faire ça, allumer un feu, donc sans briquet, hein, toujours le concept d'oublier le briquet. Et puis un retour à la nature, un contact avec la nature, les arbres, comment faire une cabane sans détruire notre milieu, voilà, tous ces trucs-là qui seront faits avec les élèves. De la musique également, je reviens sur la musique parce que je trouve ça super, la musique verte avec ce qu'on peut faire. Et ce qu'on peut faire, disons, de tout ce qu'on va trouver en forêt, c'est des trucs super. Et voilà, donc pour les enfants, cette année, ce sera ça. L'année prochaine, peut-être qu'on arrivera à intervenir dans les écoles et avoir un programme, un bon programme pour pouvoir ouvrir un maximum d'enfants à cette nature. Voilà, parce que là, quand on prend le cas ici, Gruffy, donc petit village entre Annecy et Aix-les-Bains, il y a une autre ville dans le coin qui s'appelle Rumy. Je parlais avec des amis qui sont à Rumy et qui disaient qu'il y avait des enfants qui n'avaient jamais vu une poule. Pourtant, je veux dire, on est dans un secteur hyper ouvert sur la nature, je trouve. Et pourtant, au petit patelin d'à côté, des gamins qui n'avaient jamais vu de poule. Donc, c'est, enfin voilà, nous, on se dit ça manque. Il faut quand même qu'on arrive à sortir ces enfants des écoles, même si on croit être en pleine nature. Il y a une catégorie d'enfants qui ne profitent pas de toute cette nature. Et si on pouvait aller dans les écoles pour les aider à voir tout ça, ce serait quand même top.
Vous savez qu'il y a des fois, je suis un peu fasciné parce que d'une chronique ou d'une interview traditionnelle, ça se transforme en émission spéciale. J'ai l'impression que c'est en train de ce qui est en train d'arriver avec Karine, avec Lionel. Mais moi, je trouve ça assez fascinant. Je peux pas ne pas vous poser la question parce que durant ces 8 semaines de confinement, on a vu la nature, mais alors revenir à un côté naturel assez extraordinaire. On a vu des dauphins, on a vu des animaux, on a vu aussi comment tout ce qui est plantes, tout ce qui est forêt se développer. Est-ce qu'il y a vraiment des choses est-ce qu'on est revenu à ce que j'appelle des fondamentaux durant ces 8 semaines, durant le fait qu'on ait respecté entre guillemets un peu notre nature?
Ben nous, on espère que les gens ont justement réalisé l'importance de la nature autour d'eux. C'est sûr que nous, pendant ces 8 semaines, on a profité pour manger des plantes sauvages, quoi. On a fait des semaines entières de repas de plantes sauvages.
C'était génial. Est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont développées de manière assez conséquente? Parce qu'il n'y avait plus de pollution, il n'y avait plus d'intervention de l'être humain, quoi que ce soit.
En fait, ce qu'il y avait de top, c'est que, en général, quand je cueille les plantes sauvages, j'essaie de m'éloigner des routes, à cause des pollutions, des gaz d'échappement.
D'accord.
Là, plus de voitures de rouler, il n'y avait plus une seule voiture. Mmh. Et du coup, en bord de route, et puis il n'y avait plus de voitures, et les gens ne fauchaient plus. Les villes ne fauchaient plus les bords des routes, de toute manière. Pendant un moment, ils ont laissé tout pousser. Et donc, c'est vrai que, en bord de route, finalement, il y a beaucoup de plantes sauvages qui poussent intéressantes. Mmh. Alors, j'allais pas au bord de l'autoroute quand même.
D'accord.
Il y a une limite au bord de route. Mmh. Mais il y a pas mal de chemins qui sont pas mal empruntés en cours d'année. Et là, en fait, ils étaient plus du tout utilisés. Donc, moi, quand j'avais l'occasion de pouvoir prendre mon véhicule, et que je passais dans des endroits comme ça, de temps en temps, je profitais pour cueillir là aussi, parce que finalement, il n'y avait plus de voiture, il n'y avait plus rien. Tout poussait à tout va. Mmh. On profitait, en plus de mes coins habituels, on va dire, de cueillir un peu partout. Il y en avait plus, en tout cas, ça c'est sûr.
Demain, le demain, c'est quoi? C'est justement toute cette notion de retour à la nature, de faire des choses un peu plus saines, un peu plus tranquilles.
Oui, en tout cas, nous, de toute manière, c'est ce qu'on recherche depuis un petit moment. Le retour à la nature et faire des trucs un peu plus tranquilles. Moi, à la base, je suis paysagiste avant d'avoir fait cette formation.
Mmh. Et donc déjà un peu dans le domaine, déjà un peu dans le domaine de tout ce qui...
Oui, j'étais dans le domaine de la nature et puis j'ai l'habitude de voir des plantes et d'observer des plantes. Et c'est vrai que j'ai passé longtemps de ma vie à travailler comme un dingue. Et quand on a décidé de changer de vie et de venir du côté d'Annecy, là j'ai dit stop. Et j'ai pris le parti de moins travailler. Mm-hmm. Donc je suis à mon compte, j'ai toujours été à mon compte. Mm-hmm. Donc j'ai pris le parti de moins travailler, donc je gagne moins d'argent. C'est dommage, c'est pas ce que le gouvernement voudrait qu'on fasse. Mais bon, voilà, je travaille moins, je gagne moins d'argent, mais je profite de la vie. J'essaie de prendre du temps pour moi, j'essaie de fabriquer un maximum de choses tout seul sans avoir à les acheter. On fait ça en famille en fait. C'est vrai que je parle de moi, mais on fait ça en famille. Tout ce qu'on peut recycler, on le recycle. Donc ça fait longtemps qu'on est dans cette démarche. Et j'espère que ça va continuer et que ça va continuer de mieux en mieux. Et là, voilà pourquoi aussi on voudrait enseigner à des gens ce qu'on fait avec les plantes sauvages. Mais c'est une démarche. Les gens qui aiment les plantes sauvages, souvent, alors de temps en temps, il y a juste des curieux, mais souvent il y a des gens qui essaient déjà de faire cette démarche un petit peu, de devenir un petit peu autonome. Alors je dis pas complètement autonome, mais en attendant, ça évite d'aller faire des courses. C'est plus simple que de faire son potager, d'aller se promener, de cueillir des plantes. Et ces gens-là sont un petit peu dans cette démarche. Donc nous, c'est vrai que ce qu'on aimerait effectivement, c'est que la vie aille un peu moins vite et qu'on puisse un peu plus profiter, avoir du temps en fait, avoir du temps. C'est, je crois que c'est un proverbe africain qui disait vous les Européens vous avez les montres, mais nous on a le temps. Et j'aime bien ce concept-là quoi. Avoir du temps, c'est bien de nos jours. Et puis ça vaut de l'or.
C'est le cas de le dire, ouais. Par contre, je suis un peu ennuyé sur un truc que tu m'as dit. Je te poserai bien une question, mais je suis un peu ennuyé. Je peux me permettre ?
Oui.
Ça veut dire que tu n'as pas de Rolex, en fait.
Ah non, je n'ai pas la Rolex. Non, je n'ai pas une montre, d'ailleurs.
Désolé,
mais... j'ai pas de montre, c'est des années que j'ai plus de montre.
Donc... Et il a plus de 40 ans. Non,
l'autre, il avait dit avant 50 ans. Oui, mais donc, si t'as pas. Je suis désolé, mais si t'as pas de Rolex, ça veut dire que tu ne vas pas réussir ta vie, quoi.
Écoute. Ça dépend de quelle vie en fait. Il y a 10 ans, j'aurais peut-être été ça, maintenant c'est plus ça.
Allez, une dernière question, comment dire, ça concerne les enfants. Donc, on est quand même en 2020, on est quand même au 21e siècle, au 3e millénaire. Ils sont connectés, ils ont des jeux vidéo, ils ont etc. Ils sont pas perdus être comme ça dans la nature. Je sais pas comment ils réagissent.
Nos enfants ?
Oui.
Elles s'adaptent. Elles sont rarement devant des jeux vidéo. On n'a pas de console vidéo, nous, par exemple.
Oui, mais Twitter, Instagram et tout ça, là.
Voilà, c'est pareil. Elles sont encore. Elles ont 9 et 12 ans, donc elles ne sont pas encore là-dessus.
D'accord.
Après, bien sûr, elles regardent des dessins animés sur. On a des tablettes ou des ordinateurs, donc.
On n'est pas complètement déconnecté du monde.
On n'est pas complètement déconnecté, voilà.
On est mis. Jamais
je ne me serais permis d'aller laisser entendre que vous étiez déconnecté du monde. J'ai quand même dit au départ que vous avez l'eau chaude et l'électricité, donc c'est déjà pas mal.
Voilà.
C'est ça. Et on pédale pour l'eau chaude.
On pédale pour l'eau chaude, ça promet. Bon, imaginons que. Oui, vas-y, pardon, Lionel.
En fait. Le progrès, il faut pas aller contre le progrès, il faut pas aller contre un ordinateur. C'est quelque chose à avoir, mais à maîtriser. C'est-à-dire, on a une voiture aussi, on veut pas. J'aimerais bien retourner au cheval, mais ça me paraît un peu trop compliqué à notre époque. Mais voilà, disons, on a le confort minimum. Ce que j'appelle minimum, c'est de ne serait-ce qu'avoir un ordi, une voiture, un téléphone. Je veux dire, ça nous paraît indispensable. Je dirais peut-être pas indispensable, mais en tout cas très utile.
Mais il n'y a pas d'abus.
Mais voilà. Mais en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de limiter tout ça. C'est vrai que on est sur Internet, on a fait un compte Internet, on s'est mis à Facebook. Bon, cela dit, j'avais jamais été sur Facebook avant d'avoir mon association. Bon, voilà, pour faire un peu de publicité, effectivement, j'ai ouvert un compte Facebook. Donc voilà, mais on ne réfute pas tout ça. Mais avec parcimonie. Avec parcimonie. Et puis, il y a tellement d'autres choses à faire que de rester toute la journée sur un ordinateur. Donc, c'est ce qu'on essaie de prôner. Après, l'ordinateur, on l'a. Parce qu'il y a plein de choses à faire avec. Il ne faut pas se le cacher, C'est de nos jours, c'est super bien. Internet, c'est super bien aussi. Donc ça, il faut pas l'enlever. Mais voilà, il faut faire attention. On pense que devenir complètement geek, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut. Je vais pas critiquer quelqu'un qui adore l'ordinateur. Mais bon, nous, on essaie d'éviter.
Je vais faire un petit clin d'œil à Louise Adélaïde de l'Office de tourisme d'Annecy qui m'a mis en relation avec vous. Et quand je lui ai présenté le principe de directeur de la radio insolite, elle m'a dit si tu veux de l'insolite, si tu veux comment dire quelqu'un qui a des personnes qui ont une vraie philosophie de vie, là, c'est l'endroit où il faut être. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver maintenant ? tu as parlé de Facebook, est-ce qu'il y a un site internet?
Alors, il y a un site internet. Donc, le site internet, c'est l'école des saveurs des bois.com, en un seul mot. Hein, l'école des saveurs des bois. Mais bon, après, cela dit, si on tape l'école des saveurs des bois sur internet, on va atterrir sur notre site. On a un Facebook également. Alors, l'école. Le Facebook. Oui. Comme je suis pas très bon en Facebook, en fait, j'ai pas rentré l'école des saveurs des bois, j'ai rentré école des saveurs des bois, je suis désolé. Quand je serai meilleur, peut-être. Quand je serai grand, si ça, j'arriverai à gérer tout ça.
Ah oui, tout ça.
Et donc, sur le Facebook, en fait, il est souvent mis à jour, le Facebook. C'est plus pratique parce que j'arrive à travailler avec le téléphone, enfin, en tout cas, enregistrer des photos et à mettre des commentaires. Il est plus souvent mis à jour que le site lui-même. Mais dessus, sur Facebook, vous trouverez des recettes. C'est intéressant, je donne des recettes de cuisine. Alors, cela dit, après, il faut arriver à reconnaître la plante sauvage, on est d'accord. Mais en attendant, il y a des recettes de cuisine que nous, on propose. Il y a pas mal de photos également. Voilà, c'est assez intéressant. Dessus, alors, j'ai commencé à faire, à mettre dessus les dates de stage. Alors, mais pareil, il me manque un petit peu d'expérience, mais ça va venir. Donc, les dates de stage, je les mets sur Facebook également pour que les gens puissent avoir tout ça en direct, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont souvent sur Facebook, plus que sur Internet, à chercher un site. Donc voilà.
Il y a une page Instagram aussi.
Et il y a une page Instagram aussi. Pareil, toute récente, une page Instagram qui est reliée avec Facebook. Voilà, sur toujours pareil, École des saveurs des bois, ou alors sur Internet, l'école des saveurs des bois.
Ah, si Karine n'était pas là, tu aurais oublié Instagram. Ah, Karine.
Et voilà. Oui.
Et oui, c'est à ça que je sers.
Si vous ne savez pas comment faire pour vous occuper au mois d'août, je crois que le 8 août, c'est la demi-journée. Et il y a un week-end, je crois. Non, il y a un stage le 11 et le 12 août, si je dis pas de bêtises.
Le 8 et 9 août, c'est le week-end. Ouais. Dans les Bauges, donc. Et ensuite, on a le 21 août, histoire de pesto. Alors là, on va aller se promener et cueillir des plantes avec lesquelles on fait du pesto. Ça, c'est super bon, le pesto, pour faire un apéritif, pour faire une entrée. Ça, c'est génial. Et on a... alors, je regarde en même temps l'agenda. Et le 29... alors, forcément, c'est plein. Ah, je me suis trompé. j'étais au mois de juillet, pardon.
J'ai rien dit. Hein. C'est ce qu'on appelle les joies du direct. Hein.
Je
rappelle qu'on ne coupe jamais rien. Hein, donc,
Le 8.
Karine, où étais-tu dans ce cas-là? Tu étais censée venir pour les.
Il s'est déplacé, c'est pour ça.
Ah, c'est peut-être pour ça, vas-y.
Donc, le 8 et 9 août, c'est toujours pareil. Donc, le week-end dans les bois. Ouais. Le 11 août, on a une balade botanique. Voilà. Donc ça, c'est la matinée, juste. On va découvrir les plantes et puis certainement goûter un petit peu. On fait souvent des petits biscuits aux plantes sauvages ou des bricoles aux plantes sauvages pour que les gens puissent un petit peu goûter, même si c'est que la promenade.
Oui, une petite dégustation.
Voilà, une petite dégustation.
Une tisane de plantes sauvages aussi pour accueillir les gens.
Voilà. Le dimanche 16 août, on fait une sortie sur les arbres et les haïkus. Les haïkus, c'est petits poèmes japonais, très courts. Qui parle de la nature, justement. Donc on va faire une petite balade en forêt pour prendre contact un petit peu avec les arbres, inspirer les gens qui seront parmi nous pour après créer des haïkus et faire un petit arbre haïku. Ils repartiraient avec un petit arbre haïku qu'ils auraient fabriqué eux-mêmes avec tous leurs poèmes, voire les poèmes des copains qui seront sur place, qui sont présents. Pourquoi pas s'échanger tout ça, ça c'est eux qui verront. Et ensuite, le 29 août, pareil, on a à la journée cette fois-ci, c'est une journée de cuisine sauvage. Hein, donc voilà, ce sera la balade plus la cueillette et le soir, on cuisine et on mange ce qui aura été préparé.
Voyez, on n'a pas besoin d'aller à 10 000 km de chez nous pour pouvoir passer des moments agréables et tout. Enfin, je voulais te remercier Lionel. Je voulais aussi remercier d'avance Karine qui va justement nous symboliser pour clôturer ces reportages un peu insolites, qui va nous symboliser ce que c'est qu'un haïku et tu vas nous en faire un dans quelques instants. C'est bien ça, Karine.
Alors, elle revient, elle n'est pas à côté, elle arrive.
Pour info,
alors, un haïku, par exemple.
Comme c'était pas prévu, hein, ils n'étaient pas au courant, puis moi-même, je ne m'attendais pas à faire en clôture un haïku, mais c'est pas grave. Vas-y, Karine.
Donc, par exemple, vous pouvez. C'était un haïku qui m'a été inspiré pendant le confinement. J'étais allée me balader en bord de rivière. Et je me suis sentie vraiment entourée par la nature. Mmh. Donc, il m'est venu cet haïku, l'eau dans les ruisseaux qui coule, mais pas qui résonne, les oiseaux qui chantent là-haut. C'est un haïku qui symbolisait l'arrivée du printemps dans la nature.
Ok. Eh bien, écoute, moi, je voulais vous remercier les deux d'avoir pris ce temps-là pour nous répondre. Je vous rappelle l'école des saveurs des bois. N'hésitez pas à aller faire un tour au niveau de leur site internet, de leur page Facebook, d'Instagram et tout ça. Et puis, évidemment, vous retrouvez tout sur le lien de la radio. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.